RMC Running,
Amin Mohamed.
Bonjour à tous et bienvenue dans RMC Running, le podcast de RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Nous voici toujours à Chamonix pour ce 10e épisode de la semaine de l'OCA UTMB Mont Blanc, accompagné de mon acolyte de toujours, Johan Durand. Comment vas-tu, coach?
Bonjour à tous, salut Amine.
Ça va très bien?
Bah ça roule, écoute, ouais. Impeccable, on se régale toujours cette
c'est
semaine.
Vrai. Toujours dans c'est ce magnifique. Plateau, fraîchement inauguré pour l'occasion, ça fait plaisir, on est bien. À l'abri du vent en plus.
Ah oui, on est bien, on est... Pour ceux qui connaissent Chamonix, c'est la folie douce. On est
Local Base Camp.
Mais on est calme à la folie douce. C'est pas la folie douce qu'on imagine quand on voit les images à Courchevel ou je sais pas où
ouais,
c'est placé.
On est à l'étage. Ouais. Donc sans trop de distractions.
Non, là on est tranquillement à la terrasse. Hein. On tient à le préciser.
Nouvelle thématique pour cette série d'épisodes, c'est sur la solidarité pendant les épreuves d'Ultra Trail. Comment les athlètes sont assistés, que ce soit par les bénévoles, par leurs proches et par les opérations menées par OCA. On aura au plateau donc accompagnateurs, bénévoles et membres de l'assistance Neutral Assistance. Et bien écoutez, on remercie OCA d'accompagner cet épisode. Et puis enfilez vos baskets, attachez vos lacets, mettez vos ceintures. C'est l'heure d'un nouvel épisode. Eh bien, je vais faire l'appel. J'ai Antoine à ma extrémité gauche. Comment vas-tu, Antoine? Directeur marketing
très bien, merci.
Chez OCA. Comment vas-tu?
Très bien.
Juste à ta droite, j'ai Ingrid également.
Oui, bonjour.
Bénévole.
Exactement.
Sur différents points de ravitaillement.
Sur différents points de l'UTMB, le ravitaillement, la préparation des dossards. Le car sharing, enfin plein de petites choses.
Depuis combien de temps tu fais ça?
Eh bien, ici à l'UTMB depuis 3 ans.
Waouh, bravo.
Il y a eu d'autres événements aussi dans la vallée, mais l'UTMB 3 ans.
Magnifique. Et à ma gauche, j'ai Emilien.
Bonjour.
Emilien, auditeur RMC Running, qui a accompagné un de ses potes sur l'épreuve de la TDS.
Exactement.
Ah oui.
Ah ouais, il y a eu du
donc
boulot.
Donc il a passé des jours. Combien de temps il a mis?
Il a mis 32 heures.
Ah ouais. Ça va, t'es un bon pote.
Une bonne nuit.
Une nuit, t'as dû l'accompagner.
Une nuit, ouais, quasiment deux quand même.
Ouais.
Ah
deux complètes même. Ouais, deux complètes.
Il y a eu du boulot. Ouais. On va parler un peu des bénévoles justement de cette opération ici à l'OCA UTMB Mont-Blanc. On a différents points de ravitaillement avec différents concepts. Alors on a les ravitaillements avec et sans assistance. Ingrid, est-ce que tu peux m'expliquer cette différence-là?
Bien, tout simplement, les ravitaillements avec assistance, le coureur a droit à un accompagnateur qui va justement lui apporter tout le matériel, les habits pour changer, le soutien psychologique aussi, le motiver, le côté alimentaire s'il a des petites habitudes alimentaires. Et puis il y a les ravitaillements sans assistance où là, interdiction formelle à toute personne étrangère de rentrer dans la zone, on va dire en quelque sorte. Et puis c'est un petit peu à nous justement de jouer ce rôle, de
vous
rebooster,
le
de voilà pour...
Pour les remotiver.
Ouais, pour les remotiver et puis aussi remplir leur flasque parce que des fois, selon l'état de fatigue, ils ne sont plus non plus toujours en mesure de leur rappeler de ne pas oublier leur bâton aussi parce que
ah
quoi,
oui,
ça
souvent,
arrive aussi
au ravitaillement, en l'air, ouais.
Tout à fait. Donc,
tu dois en avoir des anecdotes, Ingrid.
Ouais, il y en a quelques-unes.
Qu'est-ce qui se boit le plus sur un ravitaillement comme ça? C'est le Coca?
On peut dire la marque, ouais, le Coca.
Ah ouais.
Le Coca, ouais. Ouais, beaucoup de Coca.
Et plus que l'eau?
Ouais, Coca, ouais. Et puis il y a toujours les adeptes de tout ce qui est électrolyte, là, les boissons, tout ça. Mais c'est vrai que le Coca reste une boisson privilégiée des coureurs. Que ce soit des champions.
Ouais, surtout sur la fin de course. Ouais.
Mais même les champions, des fois, on les voit justement quand il y a assistance, ils vont enfiler la bouteille. Ouais, tu demandes d'ailleurs comment ils font. Mais...
Un litre.
On le rappelle, tu es parfois positionné à la Flégère. C'est le dernier point d'assistance à l'épreuve de 100 miles de l'UTMB Mont Blanc. À ce moment-là, on a. Des
zombies qui arrivent.
Ouais, c'est ça. Hein. Comment tu les retrouves, toi, à ce moment-là?
Alors, on retrouve un peu tout, hein, l'euphorique, parce que celui qui se dit ça y est,
c'est fini.
Ravitaillement, j'ai plus qu'une descente à faire. Celui qui est quand même au bout du rouleau, parce que il a quand même tous ses kilomètres dans les jambes. Et puis celui qui s'installe chez nous tranquillement, parce que
il
sait qu'il n'y a plus de barrière horaire.
Il veut profiter de l'ambiance.
Exactement.
Il y a une différence entre les pros et les amateurs. Les premiers passent comme des flèches.
Ah, les premiers, on a plus le temps de voir leur numéro de dossard. c'est vraiment très rapide pour eux. Puis, alors, ça dépend selon les écarts. Quand il y a de gros écarts, voilà, ils sont sur leur rythme. Il y a eu quelques années où ça se jouait quand même dans la descente, et du coup c'est voilà, c'est non-stop. Ils se ravitaillent même pas, hein. Ils passent dans la tente tout simplement, et puis ils en sortent aussitôt.
Pour ceux qui sont assez proches de la barrière horaire, on est en pleine nuit à la Flégère.
Non, on n'est plus un peu en... on est non, c'est
on est en pleine après-midi. Autant pour moi.
On est en plein après-midi. Et donc là, oui, là, on essaye de les motiver au maximum. Là, pour le coup, on les devance un peu, on prend leur flasque, on les remplit. Et puis là, oui.
Ouais,
là,
sur les premiers, met, c'est.
Voilà, on les met vraiment dehors.
Ouais.
Voilà. Il
faut... La barrière horaire, elle est à la sortie du ravito, c'est ça? Elle n'est pas à l'entrée.
Je ne sais plus, il faudrait que je...
Ouais, je crois que c'est ça le piège.
Ah oui, il ne faut pas rester trop longtemps.
On est border avec la barrière horaire, il faut vite prendre à manger, à boire et ressortir.
C'est pour ça que, d'ailleurs, en effet, j'avais un petit trou là, mais on les met dehors.
Littéralement. T'es aussi une assistance, comme tu le disais, mentale. Tu apportes un petit mot à ces athlètes qui essaient de terminer leur épreuve. On a des athlètes qui sont à bout de force quelquefois, qui hésitent à repartir même. Si jamais tu vois qu'il y a un athlète qui est pas trop dans cet état, qu'est-ce qui se passe?
Alors généralement, au contraire, ils sont toujours prêts à repartir, parce que justement c'est le dernier. Et c'est notre chef de poste, justement, elle est en lien avec le conseil sécurité. Et parfois, on doit avoir un point de vigilance, justement, sur certains numéros de dossard. Et on doit, voilà.
Ah, on vous les donne à l'avance, vous savez, voilà, qui arrive un peu en titubant.
Exactement, en fonction du ravito précédent. D'avant. On doit surveiller un petit peu. Et
donc, vous
ne
laissez pas repartir quelqu'un qui est en...
Ce n'est pas nous qui le faisons, on a l'équipe médicale avec nous. Hein, mais c'est vrai qu'on doit alerter l'équipe médicale en surveillant les numéros de dossard à l'approche.
Protocole commotion, voilà. 7x7.
Mais ce qui est fou, c'est que la première étape de ravitaillement, c'est à Contamine-Montjoie, où là, c'est un peu le chaos, tout le monde arrive un peu en même temps. Comment ça se passe? Il y a très peu de place pour beaucoup d'athlètes, beaucoup d'accompagnateurs également. Racontez-moi un peu l'ambiance à Contamine-Montjoie.
Alors moi, je vais en parler en tant que, cette fois-ci, assistante, parce que je ne suis pas bénévole là-bas, mais j'ai été assistante là-bas. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. On est les uns sur les autres. Souvent, c'est une atmosphère un peu humide avec la transpiration. C'est la nuit aussi.
On est en pleine nuit.
Et il faut trouver une petite méthode pour aussi se faire repérer par son coureur. Et puis tout est prêt, de toute façon, chaque coureur, tout est prêt généralement en amont, dans les sacs, on sait exactement ce qu'on doit faire, et puis à force de le faire, on sait exactement ce dont ils ont besoin, et parfois on n'a pas besoin de parole, juste un regard, et on sait ce qu'il faut faire, ou dire.
Emilien est avec moi, justement, tu as accompagné un de tes copains sur la TDS, il y a eu un travail en amont, justement, pour savoir ce qu'il faut faire, les gestes justes. Au moment où on arrive au ravitaillement, c'est ce qu'on vous a préparé.
Exactement, il y a eu un gros travail. C'était sa sœur qui s'occupait du ravito.
Okay.
Son père était aussi avec nous dans le van. Ils ont travaillé tous les deux ensemble pour préparer une grande checklist en amont. Donc du coup, avant le ravito, de checker la liste de tout ce qu'il faut prévoir pour chaque ravito, parce que du coup, après la première nuit, il fallait changer, parce qu'en plus il a plus beaucoup.
Et puis là, il faut changer le t-shirt,
tout de A à Z, les chaussures, tout était trempé. Donc,
et là, c'est la pression pour vous, parce que s'il manque quelque chose dans le sac...
Exactement. Déjà que le moral est compliqué, si en plus on oublie quelque chose, c'est très dur. Donc justement, il y a ce gros travail en amont de vraiment tout préparer, être sûr qu'on a vraiment tout, de savoir exactement aussi, en fonction du plan de nutrition aussi, ce qu'il faut prévoir, si on a des infos aussi qu'il nous a envoyées, s'il a des envies particulières, s'il sait qu'il va peut-être plus aimer les pâtes ou le riz, ce genre de choses aussi. Et après, à chaque bito, ça va être ce même travail de voir exactement aussi ce qu'il a mangé, lui leur donner à chaque fois dans le gilet la même dose. Et puis, de refaire à chaque fois, entre chaque ravito, de reprendre la liste, de tout refaire, de cocher aussi pendant le ravito pour être sûr de rien oublier. Justement, comme on disait, les bâtons, ça fait partie de la liste d'avant qu'ils repartent. Être sûr qu'il a bien ses bâtons, son téléphone, enfin tout le matos déjà nécessaire, plus ce qui a été vidé, ce qui est enlevé, les flasques, etc.
C'est une vraie logistique.
C'est une organisation de fou, on s'en rend pas compte. Non mais c'est assez dingue.
Ah ouais, c'est ça. Donc on ne
peut rien laisser au hasard. Il y a le côté mental aussi, après, sur lequel on va certainement revenir, mais vous êtes un peu quand même...
faut avoir les mots justes.
Faut avoir les mots justes, ouais, parce que t'as un athlète qui arrive, qui est fatigué, qui est usé, et puis tu sais pas ce qu'il a vécu en fait, à part suivre le live track, tu sais pas comment il a vécu ses 30 derniers kilomètres, donc c'est jamais évident, ouais.
Ouais, et puis souvent ils ont pas forcément la tête non plus en place, et du coup ils vont pas forcément parler eux directement, faut essayer de les faire parler avec aussi les bons mots, et ouais, essayer de chercher les infos et de tirer le fil pour savoir ce dont ils auront besoin aussi et comment ça s'est passé, ouais.
Et donc t'as accompagné ton pote Louis justement sur des points d'assistance avec, enfin points de ravitaillement avec ou sans assistance. Quand tu pouvais l'assister, évidemment, il y avait ce côté où bah, tu remplissais la flasque, tu lui donnais son sac, etc. Et puis quand c'est sans assistance, et bah, là, c'était des encouragements sur la route pour essayer de le remobiliser.
Ouais, exactement. Justement, dans les ravitaillements sans assistance, on ne pouvait pas y accéder.
Ouais.
Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on prenait le chemin à l'inverse. On courait sur le chemin à l'inverse pour aller à sa rencontre. Voilà, pour le retrouver un petit peu avant, pour pouvoir courir à côté de lui ou derrière lui, pour pouvoir justement lui parler, sachant que justement après dans l'assistance, ben il serait seul, vous serez avec les bénévoles, mais du coup...
C'est autorisé ça ? Pas trop.
Normalement non.
On le dira pas.
Pas
on
vu,
le
dira pas pris. Pas
vu, ouais, ouais. Non, c'est quelques mètres, c'est 2-3 mètres.
En voilà, quelque sorte, t'as un peu couru la TDS au final.
Quelques kilos.
Non, pas, je peux pas dire ça. Non,
mais sur les points de ravitaillement, en tout cas.
Voilà, d'échanger quelques mots en tout cas avant et puis après la sortie pour le laisser repartir. Mais voilà, pour être sûr de lui remonter un petit peu le moral.
Et puis en pleine nuit, les conditions de course peuvent être terribles au final.
Elles étaient terribles.
Avec de la pluie.
Mais il était large sur les barrières, ça c'est l'avantage, c'est que vous étiez tranquille par rapport à ça.
Oui. Bah, on avait un petit peu peur parce que le timing était, au niveau du live timing, on n'était pas trop sûr de si ça fonctionnait très bien. Okay. Mais au niveau de ses prédictions, on était large, donc on n'a pas trop eu peur là-dessus. Mais on sait jamais, ça peut très bien se passer sur la moitié de la course.
T'as fait des erreurs là dans les sacs, dans des machins, dans des ravitaux?
Non.
Est-ce qu'il y avait une demande insolite? Des écouteurs, une batterie externe?
Non, ça tout était calé avant.
Tout était calé.
Non, soit c'est un changement de plat, ouais, un changement de... Plutôt que de prendre du riz, prendre des pâtes, ou ce genre de choses. Ah,
chacun le...
Magret de canard sauce au cèpe, c'était compliqué.
Ouais, c'est ça.
Ou des sushis comme le
chocolat. Oui, aussi. Bah, c'est un bon choix.
On va parler de la team Neutral Assistance, également, montée par Oka, où justement, vous êtes aussi une assistance particulière, puisque vous accompagnez les athlètes... Peut-être en détresse mentale, physique, physiologique également. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept, Antoine ?
Ouais, bah c'est pour ça va être la deuxième année qu'on le fait. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'athlètes qui n'ont pas d'assistance, malheureusement.
Ouais.
Que ce soit des athlètes qui sont du coin ou qui viennent du bout du monde, quoi. Et finalement, pour beaucoup, c'est le challenge de leur vie. Et tu vois, s'ils sont vraiment dans le dur après 130 bornes, 140 bornes, et qu'ils pensent à abandonner, pour beaucoup, être DNF, do not finish. C'est vraiment un échec dans la vie, quoi. Donc on s'est rendu compte que l'assistance, ça peut vraiment aider à ne pas abandonner. Mmh. Et donc on a mis en place une petite équipe sur deux points, à Courmayeur à la mi-course et à Champais, donc aux trois quarts, pour pouvoir essayer de réduire le taux d'abandon. En fait, c'est tout simple, c'est juste on va dire quand les coureurs arrivent et qu'ils sont déjà dans le dur depuis 10-15 km, ils ont envie d'abandonner directement quand ils arrivent à Champais.
Et
là du coup on leur dit: attendez, prenez votre temps, posez-vous, soufflez, dormez un petit peu. Et finalement, dans 99% des cas, ensuite, ils repartent. À part s'il y a un gros problème médical ou autre. Mais sinon, on est vraiment là pour les aider, les remotiver, au moins pour aller jusqu'à la prochaine station. Quoi.
Avoir les mots justes, c'est ça, c'est le plus important.
Les mots justes, ou des fois, c'est juste un câlin. Hein.
Ah, wow.
Franchement, c'est parce que pour la plupart des coureurs, ils vont mettre plus de 41 heures pour faire la course. Et la moyenne, je crois, c'est 39. Et en fait, ceux qui sont vraiment dans les, on va dire, proches de la barrière horaire,
qui sont vraiment,
46 c'est la barrière horaire. Mmh. Ceux qui sont proches de la barrière horaire, eux, du coup, ils ont vraiment besoin de support. Et s'ils n'ont pas d'assistance, on est là pour donner un petit coup, petit coup de boost. Ouais.
Mais c'est important, hein. Ces regards, ces mots, ces petites tapes dans le dos. Des fois, ce que je disais sur un podcast précédent, ça te rebooste quand t'as passé quelques heures un peu solo dans la montagne tout seul avec ta lampe, et que là tu revois un peu de l'humain, et puis t'as quelqu'un que tu connais à peine qui te dit: allez mon champion, tu vas y arriver, tu peux le faire, et le mec il peut te juste à trouver les bons mots à te rebooster un peu. Mais
rien qu'en course route, quand on entend un allez, tu sais, des fois il y a le
nom
sur le
dossard, et quand t'as le nom, c'est vrai que
quand t'as le nom sur le dossard, ça fait plaisir
sur le dossard, et qu'on peut te
câlin en plus,
c'est encore mieux. Il faudrait des panneaux, voilà,
faudrait ça,
il y aura des câlineurs. On va inventer ça. Il y aura des gros oursons qui viennent te câliner, te faire un gros câlin à chaque ravito.
Il peut rester trop longtemps à choper après. Puis personne ne va repartir.
Après, il y a du support matériel aussi.
Oui.
Parce que pour certains, quelqu'un qui casse son bâton ou juste par exemple qui a une petite gêne, là notamment il va pleuvoir ce week-end.
Ah oui.
Qui a une petite gêne avec le sac, un truc comme
une
ça.
Irritation.
Une irritation. Après, on est là aussi, on bosse avec les autres partenaires de l'UTMB, SIDAS, tout ça pour amener le matériel qui est nécessaire pour les aider à aller au bout quoi.
Ah, c'est bien.
Vous êtes en collaboration également avec les secouristes, si jamais.
Bien sûr, ouais. Ouais. Après, c'est pas nous qui décidons. Nous, le but, c'est d'essayer de les faire aller, de les faire continuer. Mais bien sûr, après, c'est le secouriste qui va voir selon les conditions, quoi. Parce que, on va dire, dans la plupart des abandons, en dernier, il y avait 35% d'abandons. Oui. La plupart des abandons, c'est souvent le mental qui part en premier.
Ah ouais.
Et après, bien sûr, s'il y a quelque chose de cassé ou s'il y a,
évidemment.
Là, la personne doit s'arrêter. Mais très, très souvent, il y a.
C'est le mental qui a lâché.
C'est le mental qui lâche, ouais.
Et ça, on peut le travailler, on peut faire quelque chose. Parce que autant ça, c'est des problèmes gastriques, tu vomis, t'es pas bien, ou t'as une ampoule de l'espace, enfin, t'es une galère. Mais le mental, tu peux le
remobiliser.
Tu peux le remobiliser.
Ouais, le meilleur exemple, c'est on va célébrer ce soir Ludo Pommeret.
Ouais.
En 2016, quand il a gagné, il était 50e.
Ah oui, il voulait bâcher, ouais, c'est vrai.
Il avait des problèmes d'estomac, il était 50e, il était 45 minutes derrière le premier à la mi-course, quoi, à Courmayeur.
Ouais.
Et après, sa femme Céline a dû retrouver les mots justes, il a pu continuer, et à la fin, il gagne, quoi.
Ouais.
Donc, il y a vraiment. Enfin, je pense que l'aspect mental est super important.
Complètement.
Ouais, je pense que c'est d'autant plus important parce qu'on dit, on entend souvent dire que un trailer qui a abandonné 30 minutes après son abandon, il regrette d'avoir abandonné.
Ah bah ça, c'est...
Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on soit là s'il n'y a pas de problème physique.
Exactement.
Pour le booster et l'aider à repartir.
Quels sont vos défis, vous, justement, dans les poids de ravitaillement? On sait que parfois il faut gérer la nourriture, gérer l'eau. Comment vous gérez ça?
Ben on fait attention en fait, ouais. On observe les stocks,
parce qu'il y a plus d'eau, plus de chaleur
ou du froid, ça n'est pas du tout la même nourriture qui va partir. Donc en fait, c'est être vigilant tout le temps, quoi. Donc,
puis y avoir des pénuries.
Alors, on n'a encore jamais eu pénurie à la flégère.
Ah, attention à l'excès de tuc. Il faut en laisser pour les autres.
Voilà. Alors, en plus, alors à la flégère, on est généreux parce que normalement, c'est qu'un ravito liquide.
Ah,
ça,
et vous mettez
ça sur le book.
Sur le parcours.
Voilà. Et puis, on met quand même des petites choses sucrées salées. Voilà, c'est pas le ravito abondant qu'on peut trouver ailleurs, mais il y a quand même un petit peu de tout.
Est-ce qu'on s'attache à certains athlètes? Justement, sur ces moments où on les voit un peu en difficulté.
Alors, on s'attache surtout aux personnes qu'on arrête, parce que ça reste une barrière horaire. Et donc, oui, ça fait mal, parce que ayant été athlète également, on imagine toute la préparation, toutes les concessions, tout ça. Et finalement, c'est dur, ça fait mal.
Ça fait mal, ouais.
Ils se confient à vous également, les athlètes. On sait que parfois, certains ont eu des hallucinations quand on court 20 heures, 30 heures, voire 40.
Ah oui, oui, on a tout ça.
Il y a des belles histoires, ouais.
Ils se confient. Et puis sur leur préparation, quand ça ne va pas, ils se disent « pourtant, j'ai fait ça ». Et puis, on a les hallucinations aussi.
Et là, à ce moment-là, vous êtes comme une maman au final.
Exactement. Tout à fait. Ouais, on écoute, on rigole. Ouais, parce que quand on nous dit il y avait un rocher, j'étais persuadée que c'était des ours. Ah oui, donc c'était qu'un rocher. Voilà, des petites choses comme ça, quoi. Ou on a eu aussi des Tahitiennes.
Il a vu des Tahitiennes.
On est un peu loin.
On est quand même assez loin. Ouais. C'est pas le délire local. Ouais.
Et quand est-ce que vous dormez, Ingrid, dans tout ça?
Alors, on essaye de faire des roulements
pour
dormir un petit peu. C'est pas toujours évident parce que quand on nous dit on doit aller dormir, c'est pas forcément le moment où on a envie de dormir. Donc, on tient et puis on dort le dimanche soir à la fin de tout.
Émilien, quand est-ce que vous dormez, vous? Parce que après,
on n'a pas trop dormi. Ouais, on a beaucoup dormi. Ouais. Non, on a dormi un petit peu justement entre le départ et le premier ravito au col du Petit Saint-Bernard. On a dormi dans la voiture pendant qu'il pleuvait à flot, vraiment.
Et puis là, tu mets le réveil bien fort, parce que si tu loupes ton pote...
Ouais, on avait du temps. Alors, surtout avec la pluie, du coup, ils ont mis beaucoup plus de temps parce que les conditions étaient vraiment, vraiment très compliquées.
Heureusement qu'il y a le live track, hein. T'imagines, sinon, comment ça se passait il y a une vingtaine d'années de ça, le coureur, il était quelque part, tu savais pas quand il allait arriver. Tu le voyais arriver.
C'est ça, donc nous on attendait aussi. Ouais. Quand il a plu, heureusement on était dans la voiture, on pensait vraiment à tous les coureurs et toutes les coureuses qui étaient dehors et qui en bavaient quand même.
Ouais.
Et depuis on n'a pas trop dormi, non. On a dormi 2 heures ce matin avant qu'il arrive, ce matin justement à Chamonix. Ouais. Mais voilà, deux fils et tout.
Ouais, ça fait 2 heures qu'on t'attend et oh. Merci, dépêche-toi un peu.
Mine de là, c'est une pression particulière.
Ah non, mais t'as une pression dingue. Ouais. Moi, je, enfin, le peu de fois, ce que je disais, moi, dans ma carrière de sportif de haut niveau, j'ai eu la chance de pouvoir faire Lièvre et de payser des athlètes dans les grands championnats. J'ai payé des athlètes pour battre des records et tout ça. Mais t'as une pression. J'avais plus de pression quand j'étais Lièvre pour quelqu'un que pour moi quand je participais à mes propres compétitions, parce que tu sais que la performance de la personne va dépendre de ton travail et repose beaucoup sur tes épaules, et donc t'as pas le droit de faire d'erreur. Et effectivement, du coup, la performance de l'athlète dépend vraiment de leur travail. Et effectivement, quand c'est un travail, il y a eu le travail en amont avec le coach, mais après le travail du quotidien d'apprendre à se connaître, de discuter, de savoir de connaître son gars, de savoir ce qu'il a besoin et tout ça, c'est un vrai travail d'équipe. Et effectivement, c'est quand on voit le champion passer la ligne ou tous les athlètes passer la ligne, mais derrière, il faut se dire que voilà, c'est grâce à toute une team de 3-4 personnes qui ont généralement. C'est parce que j'imagine qu'il y a peu de personnes qui viennent solo quand même. Ça arrive?
Notamment à l'assistance. Justement, j'étais surpris.
Là, il y en a beaucoup.
Du coup, surtout en queue de peloton, quoi.
Ouais.
C'est ça. Les élites, ils ont tous une assistance. Mmh. Au milieu de paquet, c'est assez souvent.
Ouais.
Par contre, en queue de peloton, c'est très souvent qu'ils sont tout seuls, quoi. Ouais, ouais.
Mais comment on gère pour avoir le matériel obligatoire?
Après, on a des. Sur l'UTMB, en tout cas, la CCC, il y a 1 point. L'UTMB, il y a 2 points maintenant. Mmh. Courmayeur, il y a 2 points avec Courmayeur Champet pour poser les sacs. Mais sinon, on est seul, quoi.
Ouais.
Vous étiez une belle équipe.
Oui, on
Il y avait le mec avec la caméra pour la création de contenu. Il y avait
alors là, c'est la vraie équipe. C'est la vraie équipe moderne.
On était beaucoup.
Raconte-moi votre dispositif, justement.
Moi, je m'occupais justement des médias, donc sur toute la communication. C'est pour ça que moi, je faisais pas partie des Ravito. Moi, j'étais vraiment sur la partie communication et encouragé, comme c'est mon ami. Sa sœur s'occupait des Ravito, du coup, dans les emplacements des Ravito. Son père était là pour préparer justement en amont le sac. Il faisait à deux, il préparait en amont.
Il cuisinait.
Voilà, du coup, ils étaient à deux aussi pour cuisiner, effectivement, les plats pour Louis et aussi pour aussi toute l'équipe, parce que ça dure quand même un sacré paquet de temps. Donc voilà, en gros, ça s'est organisé comme ça. Il y avait un photographe aussi qui était avec nous.
La vraie équipe. Mais en même temps.
Mais il n'empêche qu'il était tout seul à courir, donc à la fin, si mentalement et physiquement il est pas bien, on peut faire ce qu'on veut, on peut essayer de l'aider moralement, etc. Faut que ça tienne tout seul.
Vous savez avoir les mots justes, parce qu'on a tous un caractère différent. En un regard, vous savez s'il faut le pousser, si au contraire il faut plus le câliner.
On commence à déjà plus le connaître. Moi, ça fait 10 ans que je le connais. Après, du coup, il y avait sa sœur et son père, donc forcément, eux, ils ont un lien quand même très très fort. Donc, on commence à bien le connaître aussi. L'année dernière, il a fait un gros projet. Donc, on a eu aussi tous l'habitude de pouvoir le suivre pendant tout ce temps-là et d'avoir justement des repères, de créer des repères, de créer des liens et que ça devienne naturel en fait. Ouais.
Et quand c'est quelqu'un qu'on connaît pas, du coup, comment on gère
Faut surtout écouter quoi.
Ouais.
Faut le laisser parler. Parce que généralement, ils vident leur sac.
Ouais.
C'est là où après, il y a les larmes qui viennent aux yeux, tout ça.
Ouais.
Mais le truc le plus important, l'expérience que j'ai eue, c'est qu'il faut pas leur parler de l'arrivée. Parce que dans la tête, c'est encore beaucoup trop
loin. C'est trop loin.
Il faut juste parler du prochain col, sur le prochain call, sur le prochain ravito. Et prends les étapes une par une quoi.
Ouais, ça.
Et puis il faut pas se vexer parce que parfois on est un peu le punching ball.
J'imagine.
Tranche, mais on sait par les différents étapes par lesquels il passe, donc voilà, c'est tout. On laisse couler et puis c'est tout. Vrai.
Puis j'imagine qu'il devait y avoir de belles histoires, des personnes qui arrivent totalement détruites et qui repartent avec le sourire aux lèvres et avec un merci peut-être.
Alors justement, je voulais en parler l'année dernière, on a eu Courtenay justement qui est arrivé, qui avait vraiment qui était passé à côté de sa course et c'est vrai qu'elle est rentrée dans le ravito avec son sourire légendaire et elle a pris le temps de remercier tous les bénévoles avant de quitter le ravitaillement de la Flégère. Et c'est vrai que pour les bénévoles, ça fait vraiment chaud au cœur en fait.
Ouais, c'est bien.
Ouais. C'est beau ça.
C'est beau. C'est l'esprit.
Une belle image. C'est l'esprit trail.
Ouais.
Au final.
Aussi. Donc vraiment super.
Est-ce que tu as les mêmes bénévoles qui viennent chaque année?
Alors oui, on a une petite équipe là sur la Flégère et c'est toujours la même équipe.
Ils sont là chaque année, on les délogera pas ceux-là.
Et puis voilà, on sait exactement ce qu'on doit faire, donc c'est intéressant. Je pense que aussi pour la chef de poste, elle sait elle sait comme voilà, elle ouais. peut déléguer un petit
compter
peu
sur
et
vous,
puis compter ouais. sur nous et c'est important, je pense.
Au final, on parle beaucoup des difficultés pour les athlètes à courir de nuit sous des conditions absolument gigantesques, avec de la pluie, des orages parfois, mais vous aussi, vous n'êtes pas totalement à l'abri ah bah... de la météo, c'est
alors,
un vrai
oui,
sacrifice.
On a une belle tente, mais, c'est une tente. Mais il fait froid. Il fait très froid la nuit, on a
altitude.
Voilà, on a le bonnet, les doudounes, on fait l'oignon, on met toutes les couches, et puis dès que le soleil arrive, et ben, on enlève toutes les couches.
Vous avez des lits installés dans les tentes pour pouvoir vous reposer? Des lits?
Alors non, pas du tout.
Vous dormez
accès,
debout
ouais, voilà, ah. non, on a accès au refuge, voilà, tour de rôle. Mais je vous dis, l'année dernière, je crois que j'ai dû à peine dormir une heure.
Ah oui.
Donc,
Le café coule à flot à la fin
du jour. C'est l'adrénaline. De toute façon, on vit aussi l'événement de l'autre côté de la barrière à 100% et on tient. C'est vraiment c'est comme les assistants. Voilà, on est derrière et on
ah,
le vit pleinement.
Vous l'avez dit, vous faites presque don de vous finalement de dire ok, je vais vivre la course en portant assistance aux personnes qui arriveront au ravitaillement. À quel moment vous vous êtes dit ok, là je vais partir sur du bénévolat et donner ma personne pour accompagner les autres?
Ben, moi je cours depuis que j'ai l'âge de 10 ans, donc voilà, je suis passée par toutes la piste, le cross, la route, le trail, et puis arrive un moment donné où ben, il faut prendre un petit peu sa retraite. J'ai été aussi assistante parce que j'ai mon mari qui a fait l'UTMB, la TDS, le D'accord. GRP, enfin plein de courses. Et c'est, je trouve intéressant justement de passer de l'autre côté de la barrière parce que ben, on vit les choses en tant qu'athlète, en tant qu'assistant, et ben, c'est transmettre
On garde les émotions.
Exactement, et on garde les émotions. Mmh. Voilà.
Et vous êtes de Chamonix?
Pas du tout, je viens de Lille, dans le Nord.
Et, ah ouais, exprès pour l'événement,
ouais,
depuis 3 ans.
Tous les ans.
On revient tous les ans.
Depuis 3 ans, magnifique. Ouais. Et est-ce que sur Lille, vous êtes bénévole sur d'autres courses?
Alors, on a été bénévole aussi sur d'autres courses, plus des 10 km, dans des associations aussi.
Bah,
c'est vrai qu'on a... Voilà.
Vous avez cette fibre-là.
Ouais. On a cette fibre-là, on adore la montagne, donc dès qu'on peut, on fait les différents événements en montagne.
C'est beau. Bah, bravo à vous.
Merci.
Bravo à vous. Merci Antoine d'avoir parlé Merci. Justement de la neutrale assistance. Merci à Ingrid également pour votre bénévolat.
Je vous en prie.
Et d'avoir partagé votre expérience. Merci Emilia.
Merci
également.
À vous.
Merci d'avoir partagé votre expérience et vos aventures même, j'ai envie de
ah
dire.
Ah oui, c'est des aventures.
Parce que là,
les hommes de l'ombre, mais qui sont vraiment prépondérantes pour la performance de tous les sportifs et de tous ceux qui passent la ligne d'arrivée, on ne se rend pas compte qu'ils sont... Ils font partie de l'aventure.
Ouais. Et les coureurs peuvent compter sur vous de jour comme de nuit en plus, parce que la course ne s'arrête pas à la tombée du soleil.
Non.
Donc voilà, bravo à vous. Merci beaucoup pour vos témoignages.
Merci.
C'est la fin de cet épisode. On remercie également Oka d'avoir participé à la fabrication de cet épisode à l'Oka UTMB Mont-Blanc. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous pourrez également nous écouter sur le YouTube RMC Running, parce que vous pourrez voir absolument.
Ah, vous verrez le décor, on vous ment pas.
Il y a des montagnes juste derrière.
Il y a des petites cloches. Il est 17h, on va pas vous mentir.
Merci à tous également de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Strava, Instagram. Et puis pour finir, toujours le même conseil, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Allez, salut.